Les voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire sur Europe 1. Bérénice Bourgueil.
Bonjour tout le monde, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1 en ce 1er janvier. Tout d'abord, bonne année. Et puis je suis ravie de vous proposer une émission très spéciale pour se remettre tranquillement des agapes d'hier soir. Et puis surtout pour se retrouver en famille aussi. Ensemble, on va prendre le temps d'écouter des histoires imaginées spécialement pour les enfants. Les voyages d'Amélia au cœur de l'histoire. C'est le nom de cette série coproduite par Europe 1 Studio et Deezer à écouter en podcast depuis quelques mois et qu'on vous offre comme un cadeau sur notre antenne en ce samedi après-midi. Alors ensemble, on va voyager depuis l'Égypte antique jusqu'à la cour de Louis XIV. On va rencontrer des dinosaures et Joséphine Baker. Bref, on va vivre de vraies aventures. Alors une fois n'est pas coutume, je suis seule autour de la table puisque mes chroniqueurs de C'est arrivé près de chez vous ne seront de retour que la semaine prochaine. Mais j'ai deux invités très spéciales à mes côtés. La première s'appelle Amélia. C'est une petite fille de 10 ans qui n'a peur de rien et qui a très envie de tout savoir sur l'histoire avec un grand H. La seconde s'appelle Granny, Madame Granny, antiquaire de profession. Mais vous allez vite découvrir que ce n'est pas la seule activité de ce personnage. Allez, on part tout de suite en voyage. La première histoire que je vous propose d'écouter aujourd'hui nous emmène du côté de l'Égypte. L'Égypte antique, évidemment. Les pyramides ne sont pas loin. Il y a un pharaon dans les parages. Mais avant de partir en vadrouille au cœur de l'histoire, vous allez donc faire la connaissance de nos deux héroïnes, Amélia et Madame Granny. Alors installez-vous confortablement. Attention, l'histoire va commencer.
Décidément, je comprends pas pourquoi papy veut que je vienne ici. Je lui explique que j'ai un exposé urgentissime à faire pour demain et il me dit de venir au pied de cet immeuble bizarre. Parfois, je crois qu'il commence à perdre les pédales. Hein. Pourtant, il avait l'air sûr de lui lorsqu'il m'a parlé de la vieille antiquaire qui vit dans ce bâtiment. Maintenant que je suis ici, autant voir ce qu'il y a à l'intérieur. Là, il fait sombre. On n'y voit rien.
Y a quelqu'un ?
Bon, je dois être seule. Personne ne traînerait dans une obscurité pareille, hein. Ça sert à rien de rester ici. Ah, mais je commence à y voir quelque chose. Oh ! Wow ! Incroyable ! Autour de moi, des étagères colossales tapissent les murs. Dessus, des objets farfelus, des livres en cuir et des bocaux poussiéreux trônent sur les rayons.
Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?
Oh, et là, je la vois. Tout au fond de la salle, derrière un comptoir recouvert d'un bric-à-brac pas possible. Une dame haute comme trois pommes. Elle bricole quelque chose. Je m'approche et... Oh, c'est marrant ! Elle a le visage tout froissé comme du papier. Et sur le bout de son nez, des lunettes en demi-lune tiennent en équilibre. Un tournevis à la main, elle a l'air plus que concentrée. Tant pis. Mon exposé peut pas attendre plus longtemps, je dois l'interrompre.
Bonjour, je me présente, je suis Amélia. C'est grand-père Charlie qui m'a conseillé de venir ici.
La vieille dame relève la tête. On dirait que c'est la première fois que quelqu'un entre dans sa boutique. Elle me fixe de ses grands yeux verts sans rien dire. Puis elle prend l'objet qu'elle réparait et le met dans son oreille.
Désolée, je voulais pas vous faire peur.
Oh, je n'ai peur de rien, jeune fille. C'est juste que sans ce bidule, j'entends rien. Qu'est-ce qui t'amène ici ?
Je m'appelle Amélia et...
Et moi, c'est Granny.
Enchantée, Madame Granny. Je viens de la part de mon grand-père, Charlie.
Oh, ben ça me dit pas pourquoi t'es ici.
Eh bien, j'ai un exposé à faire, c'est pour demain. Sur l'Égypte antique.
Ah, oh, l'Égypte. Terre de légendes et d'histoires. Et... En quoi c'est mon affaire ?
Papy Charlie m'a dit que vous pourriez m'aider. Il m'a dit que vous connaissiez plein de choses.
Oh, ce vieux Charlie. Toujours à me prendre pour une guide touristique, celui-ci. Désolée, fillette, mais ça fait un bail que je ne promène plus les gens dans les couloirs du temps.
Je comprends rien à ce qu'elle raconte. En tout cas, elle a pas l'air décidée à m'aider. C'est là que le conseil de papy me revient en tête. Madame Granny est aussi râleuse que gourmande.
Et en échange d'un petit coup de pouce, que diriez-vous de ces délicieux cookies?
Bingo! En voyant son regard pétillant, je sais que grand-père a vu juste.
Ton exposé, c'est sur l'Égypte antique, hein?
C'est ça!
Suis-moi!
Granny saute de son tabouret et ouvre une porte cachée derrière le comptoir. Une pièce secrète apparaît. Dedans, la seule chose que je vois, c'est un ascenseur tout vieillot. Comment ce vieux machin va-t-il m'aider pour mon exposé? Mais quelque chose au fond de moi me dit de rester.
Il est là. Voici ma petite merveille. Je l'ai fabriquée moi-même.
Vous en aviez marre des escaliers?
Oh, mais c'est pas un ascenseur comme les autres. Viens, je vais te montrer.
Sans me demander mon avis, la vieille dame m'attrape par la main et m'entraîne dans l'appareil. Dedans, il y a juste un clavier aux touches énormes. Sans doute pour compenser la myopie de Madame Granny.
C'est très gentil de votre part de me montrer vos vieilles reliques, mais je vois pas trop le rapport avec l'Égypte antique.
Mais elle prend même pas la peine de me répondre. Trop occupée à pianoter sur son engin, je la vois écrire moins 1350 avant Jésus-Christ. Bon, elle doit dérailler comme Papy Charlie. Hein.
Écoutez, moi je vais y aller, j'ai pas mal de travail à faire et...
Oh oh. Pourquoi les portes se sont fermées, là?
3.
Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe,
hein? 2.
Mais Granny se contente de me regarder avec un grand sourire.
1.
Accroche-toi, petite, ça va secouer.
Oh là 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 là, ça bouge dans toutes les sens. Pire que le grand vide de la fête foraine. D'habitude, je suis patrouillante, mais là, j'ai vraiment les pétoches.
Oh, ça a l'air de se calmer.
C'est bon, petite. Tu peux ouvrir tes mirettes.
Je soulève une paupière et quand je vois ce que j'ai devant moi, j'en reviens pas.
Bienvenue à Thèbes, capitale religieuse du nouvel empire égyptien. À notre époque, cette ville a été rebaptisée Louxor.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a autant de sable et puis pourquoi...
Doucement. Reprends ton souffle. Je vais t'expliquer. L'ascenseur que nous venons de prendre nous permet de remonter, certes, mais dans le temps.
Hein? Quoi? Non, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Oh, mais c'est génial. Mais comment ça fonctionne?
Oh, ben, comme n'importe quel engin de ce genre, on lui dit à quel étage temporel on veut aller et il nous y emmène. Et il y a juste une chose qu'il faut que tu saches.
C'est quoi?
Ben, dis donc, comme n'importe quel ascenseur, il peut repartir à tout moment. Du coup, j'ai mis au point un sonotone hyper high-tech que je bricolais quand t'es arrivé. Dès qu'il sonnera, il faudra revenir ici le plus vite possible, avant que l'ascenseur ne file. Sinon, on restera coincé là. Pigé?
Super pigé!
J'en reviens pas. Me voilà propulsé en moins 1350 avant Jésus-Christ, en plein cœur de l'Égypte. Oh, moi qui adore les aventures, je suis servie.
Mais du coup, ce grand fleuve devant nous, c'est le Nil?
Et bien sûr, quoi d'autre sinon? Le cours du Nil démarre au cœur de l'Afrique et vient se jeter dans la Méditerranée. Et sur son trajet, il traverse l'Égypte. Sans lui, ce pays serait juste un grand désert.
Oh, regardez! Que fait cet homme là-bas?
Eh bien, allons lui demander!
Madame Granny file à la rencontre de l'Égyptien avec un enthousiasme nouveau. Comme si voyager dans le temps la rajeunissait.
Bonjour à vous, mon bon monsieur.
Mais Granny, il est égyptien. Il va rien comprendre à ce que vous racontez.
Bonjour, mesdames.
Oh, bah ça alors. Même moi, je comprends ce qu'il dit.
Je t'expliquerai plus tard. Monsieur, pouvez-vous expliquer à ma petite protégée ce que vous faites ?
Eh bien, comme tous les étés, je vénère le Nil et sa crue.
Et sa quoi ?
Sa crue, voyons. Grâce au dieu Hapi, les eaux du Nil montent jusqu'à sortir de son lit. Les eaux viennent recouvrir toutes les berges, ce qui est très favorable pour mes cultures de l'année suivante.
Ah oui ? Mais vos récoltes ne sont pas noyées par l'eau ?
Lorsque la crue arrive, les récoltes sont déjà faites. Et quand le fleuve redescend, il laisse sur la terre une matière extrêmement fertile, qu'on appelle le limon. Et le limon, eh bien, il enrichit nos terres et facilite la pousse de mes plantations de blé et d'orge.
Mais c'est super ! Et Hapi, il fait quoi au juste ?
C'est le dieu du Nil, voyons. C'est grâce à lui que la crue a lieu chaque année. Sans lui, nos récoltes seraient désastreuses et le pharaon serait furieux.
Parce que le pharaon aussi s'occupe des récoltes ?
Quoi ? Mais bien sûr que non, voyons.
Allez, viens, Amélia, ne dérangeons pas plus longtemps ce monsieur.
Hey, mais attendez.
Un millier de questions se bousculent dans ma tête, mais déjà, Madame Granny m'emmène au loin.
Amélia, le pharaon ne s'occupe pas des récoltes, voyons. C'est le seigneur de l'Égypte. Il est considéré comme un dieu vivant ici. Il a autre chose à faire.
Oups, la boulette. Voyant que je m'en veux, Granny me tape dans le dos pour me réconforter.
C'est bon, tu pouvais pas savoir. Je vais te raconter. L'histoire des pharaons commence avec la légende d'Osiris. Selon elle, Osiris aurait été le premier roi d'Égypte. Il aurait appris l'agriculture et l'architecture à son peuple. Mais son frère Seth était très jaloux de l'affection que lui portaient les Égyptiens. Alors il enferma Osiris dans une boîte qu'il découpa en 14 morceaux avant de les répartir aux quatre coins du pays.
Ah oui, ça rigolait pas les disputes entre frères.
C'est le moins qu'on puisse dire. Heureusement, Isis, l'épouse d'Osiris, réussit à retrouver les morceaux et reconstitua son corps. À partir de là, selon la légende, Osiris devint le roi de l'au-delà et il eut un fils avec Isis. Ils l'appelèrent Horus.
Ah, d'accord. Et c'est depuis ce moment que les pharaons sont considérés par les Égyptiens comme des dieux.
C'est ça, comme Osiris. C'est cette légende qui donna aux Égyptiens l'espoir d'une vie après la mort. Ils croyaient que l'âme se détachait du corps pour être jugée devant le tribunal d'Osiris. Pour savoir si les défunts méritaient la vie éternelle, le tribunal pesait leur cœur pour connaître ce qu'ils avaient fait de bien ou de mal durant leur vie terrestre.
Original comme technique.
Allez, viens, je t'emmène voir où vit le souverain actuel. Tu comprendras mieux son importance comme ça.
Décidément, cette mamie à la bougette. Je me lance à sa poursuite, trop heureuse de découvrir autant de choses. Mais quelque chose m'intrigue.
Ça manque un peu de pyramides dans le coin, non ?
C'est vrai ! L'Égypte compte de nombreuses pyramides, mais il n'y en a pas partout. Ici, par exemple, elles sont plutôt rares. Par contre, dans la région de Gizeh, vers le Caire, il y en a beaucoup plus. Comme celle de Khéops. Au moment de sa construction, elle fait 146 mètres de haut. C'est pas pour rien qu'on la considère comme la première merveille du monde antique.
Incroyable ! Et les pharaons vivent là-dedans ?
Mais non ! C'est juste pour leur corps. Ici, celui de Khéops et ceux de leur famille, une fois qu'ils sont morts, bien sûr.
Je me disais bien aussi que ça manquait de fenêtres.
Nous continuons au pas de course quand, enfin, on arrive devant la maison du pharaon.
Tu vois, c'est derrière ce mur d'enceinte que se trouve la demeure du roi d'Égypte. Il y a aussi des maisons pour sa famille, ses domestiques, ses ouvriers.
Granny continue de me parler quand une envie irrésistible me pousse à courir à l'intérieur.
Amélia, non, attends !
Tant pis, je passe le mur, grimpe les marches et arrive dans la maison principale. Catastrophée, Granny me rattrape et m'agrippe le bras.
Nous n'avons pas le droit d'être ici. C'est un endroit sacré. Vite, partons.
Hé, hey, vous ! Que faites-vous là ?
Je sursaute et... quand je me retourne, je vois un homme portant une couronne et un sceptre qui nous dévisage d'un air sévère.
Oh là là, c'est qui lui ?
Oh, sa perlimoquette !
C'est un gentil ou c'est un méchant ?
C'est Akhenaton, le pharaon de l'époque, le grand roi d'Égypte !
Oh, qu'est-ce qu'on va faire ?
Alors ça, je n'en ai aucune fichue idée.
Le suspense est entier.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 pour la suite de cette émission spéciale « Les voyages d'Amélia au cœur de l'histoire ». Aujourd'hui, on écoute tous ensemble des histoires pour les enfants. Et on a rendez-vous avec Akhenaton, vous l'avez entendu. D'ailleurs, avez-vous reconnu la voix qui joue le rôle du grand pharaon ? Ah, eh bien la réponse, c'est juste après la pause.
Europe 1, les voyages d'Amélia au cœur de l'histoire. Bérénice Bourgueil.
Je suis ravie de vous retrouver en ce samedi 1er janvier sur Europe 1 pour une émission cadeau. Voilà, c'est comme ça, avec les voyages d'Amélia au cœur de l'histoire. Alors on écoute aujourd'hui ensemble des histoires pour les enfants. Il y a quelques minutes, on a fait la connaissance d'Amélia et de Granny, deux aventurières qui ont atterri dans l'Égypte antique grâce à leur ascenseur magique. Mais derrière elles, eh bien oui, c'est la voix d'Akhenaton, alias Christophe Ondelat, qui résonne.
Akhenaton est l'un des monarques d'Égypte les plus connus de la 18e dynastie.
Le pharaon se plante devant nous et nous examine les sourcils froncés.
Je suis Akhenaton, seigneur d'Égypte et adorateur d'Aton, fils de la reine Tilly et du roi Amenhotep III. Que faites-vous dans ma demeure ?
Veuillez pardonner l'étourderie de ma jeune amie. Nous allions partir, mon roi.
Madame Granny s'excuse comme elle peut. Je remarque une femme derrière Akhenaton.
Waouh ! Elle est si belle.
Oups, j'avais pas prévu de parler si fort. En m'entendant, Granny et le pharaon se tournent vers moi. Le souverain me lance un regard étonné, puis il voit que je regarde sa compagne.
Je constate que vous êtes subjugué par la beauté de Néfertiti, ma royale épouse.
La femme nous salue, Granny et moi, et s'avance. Les traits de son visage sont fins, ses gestes sont élégants. La grande couronne qu'elle porte impose le respect. Néfertiti me regarde d'un air amusé avant de parler à son mari.
Ces étrangers sortent de l'ordinaire, mon roi. Il s'agit peut-être de nobles diplomates venus du royaume de Mitanni. Que pensez-vous de leur faire visiter notre palais ?
Excellente idée, ma reine. Allons-y.
Granny et moi les suivons, sans comprendre comment la situation a pu si vite tourner à notre avantage.
Ils ont l'air jeunes tous les deux.
Mais c'est parce qu'ils le sont. Le père d'Akhenaton est mort alors qu'il n'avait que 15 ans et il fut couronné peu de temps après.
Waouh ! C'est super jeune pour devenir roi.
C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, à l'époque, il portait encore son nom de naissance, Amenophis IV. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il change pour Akhenaton.
D'un autre côté, moi si je m'appelais Amélia 62, je changerais aussi.
Mais c'est pas pour ça qu'il a changé. Oh, lui c'est pour s'attirer les faveurs d'Aton, son dieu préféré. En égyptien, Akhenaton veut dire « Aton est satisfait ». Mais je t'en parlerai plus tard.
Ah, et Néfertiti aussi, elle a changé de nom ?
Pas besoin. Son nom signifie « la belle est venue ». Plutôt flatteur, n'est-ce pas ?
Pas mal.
D'après les historiens, on sait que Néfertiti est une femme puissante, qui règne à égalité avec son époux. On raconte même que les hauts fonctionnaires ont plus tendance à la suivre que son mari. Chose très rare pour l'époque. On la retrouve dans plein de représentations, en train de faire des offrandes à Aton ou de combattre des ennemis. Avant elle, aucune reine n'avait été dessinée aussi souvent.
Nous marchons maintenant dans un long couloir du palais. Sur les murs, des stèles de calcaire représentent les époux royaux.
J'aime que mes artistes puissent me sculpter autrement que dans des postures officielles, dans ma vie de tous les jours ou avec ma famille, par exemple. Je sais que ça peut en choquer certains, mais l'art doit évoluer.
C'est vrai que pour l'époque, c'est totalement nouveau.
Voyez-vous, je ne suis pas un guerrier. Hein. Moi, ce qui m'anime, ce sont les arts, particulièrement la poésie.
Et c'est qui ces petits personnages avec eux ?
Ce sont leurs 6 filles.
Quoi ? 6 filles ? Et aucun garçon ?
Certains historiens prétendent que Toutankhamon serait leur fils, mais personne n'en est sûr.
« Nous tournons sur la droite et découvrons un nouveau passage. Sur les murs, des symboles splendides sont dessinés.
Oh, waouh ! Ces hiéroglyphes sont magnifiques.
Magnifiques, je ne sais pas, mais c'est bien pratique pour communiquer.
Psst ! Vous pouvez leur demander comment ça fonctionne. Ça m'intéresse pour mon exposé.
Je t'ai entendu, hein, jeune enfant. Les hiéroglyphes se découpent en trois catégories. Les idéogrammes, qui à l'aide d'un dessin dépeignent une idée, un mot, comme par exemple celui qui symbolise une vache ou encore celui qui représente le soleil.
Ensuite, il y a les phonogrammes. Ils sont là pour décrire un son.
C'est plus ou moins l'équivalent de nos lettres à nous. A, O, E.
Il existe une troisième catégorie qui nous aide à préciser le sens de l'une de nos phrases.
Comment ça ?
Je ne sais pas d'où vous venez exactement, mais ici, nous avons plusieurs mots qui s'écrivent de la même manière. On utilise donc ces hiéroglyphes dits déterminatifs pour mieux expliquer de quoi nous parlons.
Par exemple, tout ce qui implique une notion de violence est ponctué par un bras armé.
Et lorsque l'on évoque un nom féminin, on dessine une femme en fin de phrase. Et un homme, si l'on parle d'un nom masculin. Vous comprenez ?
Parfaitement.
J'avais jamais vu une manière aussi belle d'écrire. Et même Granny, qui pourtant a l'air de connaître plein de choses, regarde ses symboles avec des yeux d'enfant. C'est décidé. Dès que je rentre à la maison, j'apprends à écrire en hiéroglyphes. Le couple nous guide maintenant vers la pièce centrale de son palais. À l'intérieur, de grosses statues de pierre nous observent.
Voici la salle de nos dieux.
Les Égyptiens expliquaient les phénomènes naturels grâce aux dieux. Dans les croyances égyptiennes, ce sont les dieux qui assurent le lever du soleil, le changement des saisons ou, comme on l'a vu en arrivant, la crue du Nil.
Voici Osiris, le dieu de l'au-delà. C'est le premier roi d'Égypte. Et voici son frère, Seth, le dieu guerrier.
Ah oui, c'est lui qui découpa Osiris en plein de petits bouts pour l'éparpiller un peu partout.
Oui, on peut dire ça comme ça.
Et lui, c'est qui ?
Lui, c'est Anubis, le dieu à la tête de chacal, protecteur des tombes et des défunts. C'est lui qui accompagne les âmes jusqu'à Osiris pour qu'elles soient jugées.
À côté se trouve Horus, la divinité du ciel, c'est le fils d'Osiris. Sa tête de faucon est coiffée d'une double couronne, c'est l'ennemi juré de Seth.
Et lui là-bas ?
Ah, lui, c'est Aton. C'est le plus grand de tous.
C'est le dieu solaire de l'Égypte. Il distribue la vie grâce aux rayons du soleil qu'il distille sur notre royaume.
Nous lui devons une reconnaissance éternelle.
Akhenaton et Néfertiti se mettent à prier Aton.
Ah, c'est de lui dont vous me parliez tout à l'heure.
C'est ça. Avant le règne d'Akhenaton, les Égyptiens étaient polythéistes. Ce qui signifie qu'ils croyaient en plusieurs dieux. Mais pendant sa souveraineté, Akhenaton va imposer un seul et unique culte, celui d'Aton, faisant de la religion égyptienne une religion monothéiste.
Ah, je comprends mieux. Et c'est resté comme ça ensuite ?
Oh non ! Lorsque Toutankhamon est arrivé au pouvoir, le culte d'Aton est retombé dans l'oubli. Mais chut, oh là là, ça pourrait les vexer !
Après avoir terminé d'honorer leur dieu, les époux nous ramènent à l'entrée du palais. Sur le trajet, je vois une grande boîte de la taille d'un homme. Il y a des peintures dessus.
Oh,
c'est sublime. Elle représente quelqu'un, on dirait.
Qui c'est ?
Décidément, tu es une petite fille bien curieuse. Ceci est le sarcophage de mon père, Amenhotep III.
Le sarcophage, c'est... comme un lit ?
Oui, en quelque sorte. C'est là où nous mettons les dépouilles de nos morts, après les avoir momifiés.
La momification, c'est une série d'étapes permettant de prendre soin du corps de la personne décédée.
Afin de la guider vers la vie éternelle.
Et pour cela, nous commençons par vider le corps de ses organes, pour les placer dans des sortes de vases appelées des canopes.
Ces canopes sont placées dans le sarcophage et ensuite nous lavons la dépouille pour l'envelopper dans des bandelettes de tissu.
Nous déposons un masque en or sur le visage de la momie et puis nous mettons le corps dans le cercueil avec les canopes.
Et à ce moment-là, nos défunts sont prêts pour le voyage vers l'au-delà.
Pour rejoindre Osiris ?
Exactement. Pour rejoindre Osiris. Tu apprends très vite, hein.
Oh, Amélia ! Amélia ! C'est le signal ! Il faut qu'on retourne à l'ascenseur !
Mais d'où vient ce son étrange ?
J'ai l'impression qu'il vient de la salle des dieux. Serez-vous ? J'irai y jeter un œil.
C'est sûrement Aton qui s'adresse à nous.
Oui, ben ça doit être ça. Bon ben nous, on doit y aller parce qu'on a...
Des pyramides à construire, hein. Merci beaucoup pour la visite, c'était super intéressant.
Sans plus attendre, Granny me tire par la main et m'entraîne à l'extérieur du palais. À peine sortie, elle sprint déjà en direction de notre machine à voyager dans le temps.
Allez, allez, dépêche-toi! Les portes vont bientôt se fermer!
Devant moi, Granny est déjà dans l'ascenseur. Elle me tend la main, les portes se referment. Granny m'attrape et me tire contre elle.
Lorsque les portes se rouvrent, nous sommes de retour dans la boutique de Granny, à notre époque.
Vite, il faut sortir si nous ne voulons pas repartir dans le temps.
À peine avons-nous quitté l'ascenseur que, pouf, il disparaît en direction d'un nouveau siècle. Je me relève et vois que je suis couverte de sable.
Oh. Eh bien, tu as emmené la moitié de l'Égypte avec toi.
Je peux pas m'empêcher de rigoler aussi en voyant à quel point j'en ai partout.
Une fois dépoussiérée, je prends mon sac laissé dans un coin de la pièce et en sors mes cookies.
Tenez, Granny, comme promis.
Oh, merci, jeune fille. Bah dis donc, ils sont délicieux.
C'était vraiment super aujourd'hui. Vous pensez qu'on pourrait recommencer ça un jour ?
Oui, c'est vrai que c'était marrant. Alors, pourquoi pas retenter l'aventure ? Mais tu dois me promettre une chose.
Tout ce que vous voudrez.
Ça doit rester notre secret. Si tu en parles à tout le monde, on risque de me retirer mon invention, d'accord ?
Pas de problème, Madame Granny. Je serai muette comme un sarcophage.
Allez, file ! J'ai des cookies à dévorer, moi.
Sur le chemin du retour, je pense déjà à la prochaine destination que je vais pouvoir visiter avec Granny. Quelque chose me dit que l'histoire, ça va devenir ma matière préférée.
Quel voyage dans le temps ! Oh, la suite de nos aventures dans l'histoire, c'est dans un instant, avec Amélia et Granny, les deux personnages qui nous accompagnent aujourd'hui. Ben tiens, à propos, sachez que ces deux héroïnes sont interprétées par les comédiennes Camille Aguilar et Nathalie Holmes. Le tout sur un texte de Thomas Le Petit Corps et Bloom. Et la réalisation des épisodes est assurée par Christophe Davio.
Les voyages d'Amélia au cœur de l'histoire sur Europe 1. Bérénice Bourgueil.
C'est une émission spéciale que je vous propose aujourd'hui sur Europe 1. On écoute tous ensemble des histoires pour enfants, les aventures de la petite Amélia, 10 ans, et de l'antiquaire qui habite au coin de la rue. Pour le prochain voyage, vous pouvez changer de costume. On file sans perdre une minute à la cour de Louis XIV.
Oh non, j'y étais presque. C'est qui ?
Amélia ! Amélia, c'est toi ?
Mais oui, c'est Granny. La vieille antiquaire haute comme trois pommes. Madame Granny !
Chut ! T'es toute seule ?
Oui, papa et maman travaillent et papy Charlie fait la sieste.
Parfait, suis-moi, on a une urgence.
Elle a l'air vraiment inquiète. Alors j'obéis sans poser de questions.
Enfin, presque.
Qu'est-ce qui se passe? On va où? C'est grave? Pourquoi vous faites cette tête-là?
C'est bon, calme-toi. Vois-tu, jeune fille, je fais partie d'un clan très ancien. Les portiers du temps.
Waouh! Canon comme nom. Mais attendez, je croyais que vous voyagez plus dans le temps.
Oh, tu sais, on a tous nos petits secrets. Bref, c'est avec eux que j'ai fabriqué l'ascenseur temporel. Mais juste après notre voyage chez les pharaons, l'un des nôtres nous a trahis et a volé les plans de notre machine pour en construire une autre.
Et vous savez qui c'est?
Le professeur Nasbrock. Un horrible type qui veut parcourir le temps pour servir ses propres intérêts.
Comme changer de nom, par exemple?
Oui, heureusement, grâce à notre connaissance des couloirs du temps, nous pouvons le suivre à la trace dans les époques qu'il visite.
Pour s'assurer qu'il fasse rien de mal?
Exactement. Et la première période que ce félon a choisi de bousculer est une période clé de l'histoire de France, celle de Louis XIV.
Oh, le roi Soleil! J'adore cette période!
Alors, jeune fille, comme tu as déjà voyagé dans le temps, que t'es plutôt débrouillarde et que je commence à me faire vieille, ça te dirait de m'accompagner pour me donner un coup de pouce?
Ah, mais mille fois oui!
Saperlitempette, je savais que je pouvais compter sur toi. Direction la cour de Sa Majesté Louis XIV.
3, 2, 1...
Ah, ça se coûte toujours autant, ces voyages.
Allez, viens, Nasbrock doit être dans le coin.
Hé, mais c'est le...
Le palais du Louvre. Enfin, ce à quoi il ressemblait en 1665.
Sans m'en dire plus, Granier m'entraîne vers une grille métallique. Derrière se trouve la demeure royale, avec sa cour carrée et ses murs de pierre sculptés aux emblèmes des rois précédents.
C'est trop beau. Je comprends pourquoi cet endroit s'est transformé en musée du Louvre ensuite.
Seul problème, devant le portail, deux soldats montent la garde. Avec nos dégaines, ils vont forcément nous dire quelque chose. Mais arrivé à leur niveau, Granier les salue comme si de rien n'était et passe devant eux.
Ils ne nous ont rien dit.
Oh, tu as encore beaucoup à apprendre. Tu vois le sonotone que j'ai dans mon oreille?
Celui qui nous alerte lorsqu'il est temps de repartir?
Lui-même. Eh bien, il permet aussi de simuler un déguisement de l'époque qu'on visite. Mais attention, si tu t'éloignes trop de l'appareil, l'illusion prend fin et tu seras démasqué.
Je découvre alors que je suis habillée d'une épaisse robe bleue pleine de fanfreluches. Un corset me serre la taille et un chapeau bordé de dentelle est posé sur ma tête. Quel style! Mais quand je vois Granny, je me retiens d'exploser de rire. Elle est emmitouflée sous une couche de robe au dégradé de vert qui lui donne l'allure d'une grosse pomme prête à être croquée.
C'est bon, pas de quoi en faire tout un foin!
Alors que nous continuons vers le palais, une question me trotte dans la tête.
Il est devenu roi à quel âge, Louis XIV?
Oh, tu vas être surprise. Il est monté sur le trône à peine 5 ans.
Les gens voulaient laisser un enfant gouverner le pays pour que ce soit plus marrant?
Pas exactement. Déjà, ses parents n'arrivaient pas à avoir d'enfants, alors qu'ils étaient mariés depuis plus de 20 ans. Du coup, quand Louis est né en 1638, ils étaient plus que contents. Mais son père est mort quelques années après. C'est pour ça qu'il est arrivé si jeune sur le trône.
Mais il devait faire n'importe quoi. Comme rendre obligatoire le pyjama ou colorier les murs du château.
Mais non! Pour éviter ça, c'est sa mère, Anne d'Autriche, qui a pris la tête du royaume. Avec le cardinal Mazarin, un grand homme d'église, également parrain de Louis XIV. On a appelé ça la période de régence.
En attendant que Louis soit plus vieux.
Voilà! Surtout qu'il a eu une enfance compliquée. Notre jeune roi n'arrêtait pas de tomber malade. Variole, tumeur, intoxication. Oh, il a eu plein de problèmes. Et puis, en 1661, le cardinal Mazarin est décédé. Et Louis XIV a alors voulu gouverner seul.
Et pourquoi le professeur Nasbrock a choisi de venir ici? Pour voler la couronne du roi?
Oh non ! Ce traître n'est pas attiré par la richesse, mais par la gloire et la reconnaissance. À l'époque où nous sommes, de nombreux artistes vivent sous la protection du roi, qui se passionnent pour l'architecture, la danse et le théâtre. C'est notamment le cas d'auteurs de pièces de théâtre, comme Racine, Corneille ou encore...
Granny n'a pas le temps de terminer sa phrase, que quelqu'un la percute de plein fouet.
Oh, je m'excuse, je me présente. Jean-Baptiste Poquelin, aussi surnommé...
Molière ! On parlait de vous, justement.
J'en suis flatté.
Et qu'est-ce qui vous prend de courir comme ça ?
Je suis confus, madame, j'étais en train de poursuivre un horrible voleur.
Nasbrock !
Ce perfide m'a dérobé le manuscrit d'une pièce de théâtre que je venais d'achever, Don Juan. L'histoire d'un homme à l'esprit fort et grand amateur de la gente féminine. Ça promettait d'être un chef-d'œuvre, encore meilleur que Tartuffe.
Il faut prévenir le roi, car voleur se cache à la cour.
Vous avez raison. Allons le voir.
Sur notre chemin, on croise des hommes et des femmes aux perruques abracadabrantes. Si hautes que je me demande comment elles tiennent sur leur crâne. Granny remarque mon air amusé.
Louis XIV a perdu ses cheveux à 20 ans. Il a alors décidé de porter des perruques. Et pour lui plaire, ses sujets ont fait de même.
On entre dans le palais. Au mur, des tableaux représentent des angelots dans toutes sortes de positions. Les pièces sont éclairées par des dizaines de lustres dorés suspendus au plafond. Je n'ai jamais rien vu d'aussi luxueux.
Nous arrivons dans le salon d'apparat, là où notre souverain reçoit du monde.
Pourquoi tous ces gens le regardent ?
Chaque action de Louis XIV est un véritable événement. Que ce soit quand il se lève, quand il fait sa toilette ou quand il mange, ses favoris sont conviés pour assister à ce spectacle. C'est pour ça qu'on l'appelle le roi soleil, car tout gravite autour de lui.
Et on ne dit pas aussi que son pouvoir vient directement de Dieu ?
Tout à fait. On parle alors de droit divin.
Il a terminé. Nous pouvons aller le voir.
On s'avance vers Louis XIV. Quand un homme surgit de nulle part et d'un geste vif, pique le sonotone de Granny avant de se cacher derrière le souverain.
Oh, Nasbrock ! Odieuse petite crapule ! Reviens ici !
Viens chercher.
Je m'avance. Mes deux gardes nous empoignent, Granny et moi, pour nous emmener jusqu'au roi.
Saperlipopeye ! Sans mon sonotone, il nous voit habillés comme à notre époque.
Sire, ces individus accoutrés d'une drôle de façon sèment le trouble dans le palais. Qu'en faisons-nous ?
Au vu des frusques qu'ils portent, vous pouvez les jeter au cachot.
Bien, sire. Au cachot !
Oh oh, ça sent pas bon du tout, ça.
Quel suspense pour Amélia et Granny. Vous avez juste le temps d'avaler un chocolat chaud et puis on se retrouve dans quelques instants pour écouter en famille, évidemment, la suite de ces aventures à travers l'histoire sur Europe 1.
Europe 1. Les voyages d'Amélia au cœur de l'histoire. Bérénice Bourgueil.
Je suis ravie d'être à vos côtés en ce 1er janvier, premier jour de l'année. Et puis là, voilà, samedi après-midi, on est au calme et on va prendre le temps. Alors vous êtes d'ailleurs peut-être en famille aujourd'hui. Surtout, ne bougez pas. On vous a concocté une petite surprise sur Europe 1. Une émission spéciale pour écouter ensemble les aventures d'Amélia et de Granny à travers l'histoire. Des récits imaginés spécialement pour les enfants, c'est un petit peu notre cadeau de bonne année, le tout coproduit par Europe 1 Studio et Deezer. Et je vous emmène tout de suite à la cour de Louis XIV, le roi soleil, grand amoureux des arts, du théâtre et de Molière, qui a décidé d'en découdre avec le méchant Nasbrock.
Eh bien, ils sont pas très accueillants ici.
C'est ça de se présenter en jean et basket devant le roi.
La cellule dans laquelle nous sommes est sale, humide et elle sent renfermée. Je me faisais une autre idée de la vie de château. Soudain, un bruit résonne dans le couloir. Une seconde après, la porte de notre prison s'ouvre sur Molière qui tient une poêle à frire dans la main. À ses pieds, notre gardien gît sur le sol, inconscient.
Molière !
Mesdames, désolé, je ne pouvais rien faire devant le roi. Alors, c'est vrai que vous êtes accoutrés bizarrement, mais je pense que vous pouvez m'aider. Ce satané usurpateur, Nasbrock, s'est attiré les faveurs du roi.
Pourquoi Louis XIV s'intéresserait à une vermine pareille ?
Parce qu'il y a quelques jours, il lui fit lire ma pièce en prétendant l'avoir écrite. C'est une honte !
J'ai un plan, mais pour ça, il faut qu'on retrouve le roi. Venez !
On entre dans une sorte de couloir. Au plafond, des peintures somptueuses sont encadrées de dorures. Sur les murs, une tapisserie aux mille et une couleurs décore le lieu.
C'est la galerie Apollon, refaite il y a peu.
C'est incroyable!
C'est l'un des exemples d'ornementation que Louis XIV instaurera ensuite dans tout le château de...
Versailles! Le roi part vérifier l'avancée des travaux du château de Versailles.
Je rejoins Molière qui regarde par une fenêtre.
Et ce satané Nasbrock est avec lui. Vite! Allons-y!
On reprend notre course. Descendons les marches menant à l'extérieur. Mais trop tard! Le roi et ses sujets sont partis. Sans perdre un instant, Molière lève la main en direction d'un carrosse à bord duquel nous montons.
Cocher, suivez ce fiacre, je vous prie.
Pourquoi le roi fait construire un nouveau château ? Il est très bien celui du Louvre.
Enfant, notre roi connut une période trouble appelée la Fronde. Ce sont des conflits qui éclatèrent suite à une augmentation des impôts. Sans oublier que le pouvoir royal se trouvait affaibli par le jeune âge de notre souverain. Que ce soit dans la noblesse ou chez le peuple, les gens contestaient son autorité.
Et quel rapport avec Versailles ?
Cette période a traumatisé Louis XIV. Depuis, il se méfie des Parisiens. C'est pour ça qu'il y a 3 ans, il a fait construire Versailles pour s'éloigner de la capitale et garder sa cour sous sa surveillance. Ce n'est qu'à 20 km, mais à la vitesse du fiacre, nous en avons tout de même pour 3 heures.
Regardez, on arrive!
Mais je ne vois qu'un immense marécage.
C'est ici que le roi veut déménager? J'espère qu'il n'est pas allergique aux moustiques.
Ne t'inquiète pas, ça va bien changer. Les travaux dureront plus de 30 ans et ce chantier coûtera l'équivalent, écoute-moi bien, d'1 milliard d'euros.
Ça veut dire que bientôt ces marais seront remplacés par ces jardins aux formes géométriques? Avec des carrés, des triangles et des losanges?
Exactement. On appelle ça des jardins à la française. Souvent, on y trouve aussi des fontaines et des jets d'eau.
On suit Molière qui repère le roi et sa cour près des premiers murs du futur château de Versailles. Caché derrière un arbre, j'observe les sujets se pavaner devant leur roi. Nasbrock le premier.
Alors, c'est ça la vie de roi? Organiser des cérémonies lorsqu'on sort de son lit et se faire complimenter à longueur de journée?
Ça en fait partie, en effet. Mais Louis XIV a aussi mené de grandes guerres, comme la guerre de Dévolution et la guerre de Hollande. C'est aussi grâce à lui et à son attrait pour les arts que le classicisme s'est développé.
Mais où est Molière?
Je me retourne et je vois Molière filer à toutes jambes en direction de Nasbrock. Poings serrés et mâchoires crispées.
Saperlipopiette ! Ce nigaud va se faire ratatiner par les gardes !
Granny sort de sa cachette et tente de raisonner l'écrivain Furax.
Laissez-moi pourfendre ce gueux ! Il doit payer pour son crime ! Voler le travail d'un autre, mais quelle indécence !
Très vite, les cris de l'écrivain attirent l'attention sur eux. Le roi les dévisage et j'entends Nasbrock lui dire
« Sire, c'est la vieille dame de tout à l'heure, celle qui a voulu vous approcher. Elle est sûrement dangereuse. »
Vous avez raison. Garde !
De ma cachette, je vois les soldats armés leurs mousquets. Il faut que je fasse un truc.
Attendez !
Tout le monde se fige. C'est déjà ça de gagné. Je m'approche tout doucement.
Sire, elle aussi, elle est mauvaise. Mieux vaut s'en débarrasser.
Mon bon roi, cet individu à vos côtés dit être l'auteur de la pièce qu'il vous a présentée.
Oui, c'est bien vrai.
Je pense que c'est un menteur. Et que le véritable auteur, c'est Molière. Et je peux vous le prouver.
Baliverne !
Je vous écoute, jeune fille.
Il n'y a que le réel auteur qui peut réciter un passage de sa pièce par cœur. Alors, mettez-les à l'épreuve.
Excellente idée. Molière, commencez.
J'ai justement un passage qui convient à la situation. Don Juan, acte 5, scène 2. L'hypocrisie est un vice à la mode, et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages.
Waouh ! Pas mal !
En effet, c'est bien le texte. Nasbrock, à vous maintenant !
Le visage du professeur devient tout blanc. Il bafouille quelques mots et... s'enfuit en courant.
Ça, Granny, vous allez me le payer !
Les soldats le poursuivent, mais Nasbrock est déjà loin. Par terre, je vois un objet briller.
Granny ! Nasbrock a laissé tomber ça.
Saperlipopette, mon sonotone!
Nous disons au revoir à Molière qui nous remercie chaleureusement. Nous regagnons notre calèche et retournons en direction de notre ascenseur temporel resté au palais du Louvre. Louis XIV nous regarde nous éloigner d'un air intrigué.
Molière, ces saltimbanques que vous côtoyez sont bien étranges.
3, 2, 1...
c'était trop bien. J'ai appris plein de choses.
Ouais, même si ce satané Nesbrock nous a échappé.
À force de parcourir l'histoire, on finira bien par la voir.
Si tu le dis. Allez, tu peux retourner à ta répétition de batterie maintenant.
Les voyages d'Amélia, c'est le nom de ces histoires spécialement écrites pour les enfants qu'on écoute ensemble aujourd'hui, avec cette très belle musique composée ici, à Europe 1, par Julien Tarot. On se retrouve pour une nouvelle aventure à la découverte de l'histoire. Alors préparez-vous, on risque de croiser un ou deux dinosaures.
Les voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire sur Europe 1.
Cet après-midi, j'ai mon entraînement de rugby. Je suis trop contente. Il faut courir comme une dératée, faire des passes et sauter dans la boue. C'est trop bien. Je prends mon sac, j'y fourre pêle-mêle mon casque, mes crampons et mes épaulières. J'enfile mes baskets et je dis au revoir à Papy Charlie qui fait encore la sieste. Dehors, il fait super beau et les gens sont souriants. La journée parfaite. Sur le trajet, je passe devant la boutique de Madame Granny. La vieille antiquaire qui voyage dans le temps aussi facilement que nous, on monte dans un train. Je regarde l'étrange bâtisse et je me souviens de toutes les aventures que j'ai déjà vécues avec elle. Madame Granny ?
Amélia, vite, viens là !
Mais, c'est-à-dire que j'ai mon entraînement de rugby et...
Ça perlit croquette ! Ne discute pas et rejoins-moi !
Ah, je vous jure, quel caractère de cochon ! Dans le magasin, il fait toujours aussi sombre. Et il y a de plus en plus de bric-à-brac entassés ici. Madame Granny file directement dans la pièce secrète derrière son comptoir, celle qui abrite l'ascenseur temporel.
Et qu'est-ce qui se passe ?
Ce vil gredin de professeur Nesbrock essaie encore de bousculer l'histoire ! Et il faut qu'on l'arrête !
Depuis que cet horrible scientifique a construit sa propre machine à voyager dans le temps, Granny est sur les nerfs.
Mais il est parti où cette fois ?
Au Crétacé, il y a 100 millions d'années, directement chez les dinosaures.
Mais c'est génial !
La vieille dame me regarde en fronçant les sourcils.
Non mais c'est juste que j'adore les dinos. Je les connais par cœur.
Ça tombe bien, moi j'y connais pas grand-chose. J'ai besoin d'une connaisseuse pour arrêter Nesbrock. Parce que si ce fêlé du ciboulot se met en tête de domestiquer un tyrannosaure, c'est la catastrophe chronologique assurée. Tu m'accompagnes ?
Ah mais sans problème !
J'entre dans l'ascenseur. Granny appuie plein de fois sur l'énorme clavier pour entrer la date correspondante. C'est vrai que 100 millions d'années en arrière, c'est un sacré chiffre.
3, 2, 1.
J'ouvre un œil, puis le deuxième. Le spectacle est tellement fou que ma bouche s'ouvre aussi.
Attention, tu vas gober une mouche aux ors.
Nous avons atterri dans une grande prairie. Autour de nous, des dinosaures broutent paisiblement. Il y en a de toutes les espèces. Des petits, des grands, avec des cornes sur deux pattes et même certains avec des plumes. Ils sont si beaux, si majestueux.
Ouh, fini de rêvasser. On doit retrouver Nesbrock. D'après les coordonnées qu'on m'a envoyées, il doit être en haut de cette montagne, tout là-bas.
Mais avant, il va falloir traverser cette forêt qu'on voit au loin.
En effet, oui, bon, allez, oh, on n'a pas une minute à perdre. En route !
C'est complètement zinzin. En regardant les espèces autour de nous, je pense qu'on est dans le sud de la France, à l'époque du Crétacé supérieur.
Alors là, c'est toi l'experte, je te l'ai dit, jeune fille.
C'est vrai que depuis que je suis toute petite, j'adore ça. Vous saviez que la Terre est née il y a 4 milliards d'années ? Au début, ce n'était qu'une boule de feu. Et puis, il y a 300 millions d'années, des reptiles sont apparus. 100 millions d'années après, ce sont devenus des dinosaures. Vous vous rendez compte ? Rien que d'imaginer tous ces chiffres, ouh, ça me donne le tournis.
Alors, les dinosaures, ce sont des lézards qui ont grandi ?
Oui, c'est à peu près ça. Pour les définir, on dit que ce sont des reptiles à quatre pattes, avec une queue et une peau aussi épaisse qu'une armure.
Et ce sont des ovipares.
Ah non, rien à voir avec des têtards.
Mais non, des ovipares, ça veut dire qu'ils pondent des œufs, comme les oiseaux.
Mmh.
Oh, ben dis donc, ça me rassure, j'ai encore des choses à t'apprendre.
C'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que vous savez combien d'espèces de dinosaures on a découvertes aujourd'hui?
12?
Bien plus.
13?
Plus de 1000 sortes différentes. Et encore, les scientifiques sont sûrs qu'il en existe beaucoup plus. Mais Granny ne m'écoute plus. Elle fixe le sol attentivement.
C'est pas des traces de dinosaures, ça.
Le professeur Nasbrock,
ça m'en a tout l'air. Je ne sais pas ce qu'il manigance, mais ça sent pas bon.
Granny veut accélérer. Mais il y a trop de lianes, de branches et de plantes. J'en profite pour lui raconter une autre anecdote. L'ère durant laquelle ont vécu les dinosaures s'appelle le Mésozoïque. Et elle est découpée en trois parties. D'abord le Trias, là où les dinos apparaissent. Puis le Jurassique, période pendant laquelle les espèces évoluent et cohabitent. Et enfin, le Crétacé, là où nous sommes, et qui vient marquer la fin des dinosaures.
Bon bah vite, on a envie d'avoir la suite de cette balade dans l'histoire. Ne bougez pas, on se retrouve juste après pour poursuivre cette émission spéciale à écouter en famille ou entre amis autour de ces aventures que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans un podcast inédit. Il s'appelle « Les voyages d'Amélia au cœur de l'histoire » et il est coproduit par Europe 1 Studio et Deezer.
Europe 1, les voyages d'Amélia au cœur de l'histoire. Bérénice Bourgueil.
Soyez les bienvenus en ce 1er janvier. Allez, bonne année! Bah oui, j'ai le droit de le dire aujourd'hui. Et pour bien commencer 2022, on a décidé sur Europe 1 de vous offrir un cadeau. Une émission spéciale à écouter en famille avec des histoires imaginées pour les enfants. Nos deux héroïnes du jour s'appellent Amélia, 10 ans, et Granny, la vieille antiquaire qui habite au coin de la rue. Et avec elle, je vous propose de monter dans l'ascenseur temporel. C'est notre machine à voyager dans le temps pour reprendre notre balade sur les traces des dinosaures.
T'es vraiment passionnée par ces grosses bestioles, dis donc.
Je trouve ça surtout dingue de voir à quel point notre planète a changé. Vous imaginez qu'au début du Trias, il n'y avait qu'un seul continent?
La Pangée?
C'est ça, la Pangée. Un super continent qui s'est divisé petit à petit. D'abord en deux, puis en six parties, qui formeront les continents que nous connaissons.
Et ensuite, il s'est passé quoi? Comment ça se fait que des bébêtes aussi grandes et aussi fortes ont pu disparaître?
Oh, c'est la question que tout le monde se pose.
Et on a la réponse?
Il y a deux hypothèses. Certains pensent que c'est un énorme volcan qui est rentré en éruption, et d'autres disent que c'est un astéroïde qui a percuté la Terre.
Mais comment un volcan ou un astéroïde peuvent-ils tuer autant d'êtres vivants?
Que ce soit l'éruption du volcan ou l'impact de l'astéroïde, on pense qu'un immense nuage de poussière serait apparu et aurait privé la Terre de la lumière du soleil. Cela aurait complètement détraqué le climat et toutes les plantes auraient disparu. Du coup, les dinosaures herbivores qui les mangeaient sont morts de faim, puis les carnivores qui se nourrissaient des herbivores ont disparu à leur tour. Et voilà, plus de dinos du tout.
Morale de cette histoire?
Il ne faut pas trop faire de poussière.
Pas mal. Moi, j'aurais plutôt dit que le vivant est une chose très fragile et qu'il est nécessaire de le protéger.
Granny s'arrête et pointe son doigt devant elle. Entre les branchages, je vois la montagne où est censé se trouver Nasbrock. Oui, nous touchons au but. Je souris à Granny, mais lorsqu'elle me regarde, une affreuse grimace se dessine sur son visage. Bah quoi? J'ai quelque chose entre les dents?
Chut! Amélia, ne dis plus rien!
Vous pouvez me le dire, vous savez. Ça me vexera pas, hein?
Granny me montre quelque chose derrière moi. Je me retourne tout doucement. Et là, me fixant de ses grands yeux, une silhouette colossale m'observe. Ce dinosaure doit mesurer au moins 4 mètres de haut. Il ouvre grand sa gueule. Et d'un coup, il plonge sur moi.
Amélia!
Oh là là, quelle frayeur! On espère que tout va bien se passer pour Amélia et Granny. Ces personnages sont interprétés par deux comédiennes de talent, Camille Aguilar et Nathalie Holmes. avec à la réalisation et à la direction artistique, j'en profite pour redire leur nom, c'est important, Christophe Davio et Xavier Joly. On reprend tout de suite nos voyages au cœur de l'histoire sur Europe 1. Les dinosaures nous attendent.
Je n'ai pas le temps de bouger. La mâchoire passe à 2 cm de mon visage et vient engloutir une fougère à côté de moi. Le dinosaure se redresse et broute paisiblement la plante qu'il vient de cueillir. À part un pot de fromage blanc, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi blanc que granit.
Ne vous inquiétez pas, c'est un ampélosaurus. Il est végétarien.
Non, mais je ne m'inquiète pas. Je n'ai pas du tout cru que tu allais te faire gober par ce monstre.
On l'appelle aussi le lézard du vignoble. C'est un cousin éloigné du Diplodocus qui vivait dans le sud de la France au Crétacé. Vous avez vu comment il est grand ?
C'est le moins qu'on puisse dire. On pourrait grimper à 30 dessus et il s'en apercevrait même pas.
On reprend notre route en laissant notre ami déjeuner tranquillement.
Et on risque d'en croiser d'autres, des engins pareils ?
C'est possible. En France, il y en avait beaucoup. Par exemple, à l'ère du Trias, il y avait le platéosaure.
C'est grand, ça ?
Un des plus grands de l'époque.
Et c'était un herbivore aussi le...
Plus ou moins. Les griffes de ses pattes arrière laissent penser qu'il pouvait parfois manger de la chair fraîche.
Rassurant.
Sinon, à l'ère d'après, au Jurassique, on trouvait le fameux Diplodocus. D'ailleurs, c'est marrant, parce qu'avec le film Jurassic Park, que j'ai vu en cachette, hein, on a l'impression que le T-Rex et le Diplodocus vivaient à la même époque. Mais en fait, le Diplodocus est bien plus ancien que le T-Rex, qui, lui, vivait au Crétacé.
Attends, quoi ? Tu veux dire à l'époque où nous sommes maintenant ?
C'est ça.
Saperlitrompette ! Mais c'est horrible !
Ah mais non ! Le tyrannosaure habitait en Amérique du Nord, pas du tout en France. Vous inquiétez pas.
Oh, et en France, il y avait quoi d'autre ?
J'aime bien le Lexovisaurus, qui vient de Normandie. Un dino normand. Un dino normand, quoi.
Je rigole de ma propre blague quand la lumière s'éteint. Je crois d'abord que c'est un nuage qui masque le soleil, puis je lève les yeux. Une créature gigantesque vole au-dessus de nos têtes.
Waouh ! Un ptérosaure !
C'est vrai qu'il est beau.
En grec, ptérosaure signifie reptile volant. Même s'ils ont vécu à la même époque, ils ne font pas partie de la même famille que les dinosaures. Les plus grands d'entre eux peuvent mesurer jusqu'à 12 mètres.
C'est curieux. On dirait que ses ailes ne sont formées que d'une seule membrane.
Oui, c'est ça. Elles sont très différentes de celles des oiseaux qu'on connaît.
Je le regarde se perdre dans les nuages. Merveilleux.
Soudain, un cri terrible me fait sursauter.
Mais qu'est-ce que c'est ?
Je parierais mon sonotone que c'est ce fichu professeur Nasbrock. Suis-moi !
On sort de la forêt en courant. Pile, en face de nous, Nasbrock est en train de dévaler la montagne à vitesse grand V. Dans ses bras, il tient un œuf qui fait 2 fois la taille de sa tête. Derrière lui, un dinosaure aux dents acérées hurle à la mort.
Mais Amélia, je croyais que les T-Rex ne vivaient pas en France.
C'est pas un T-Rex, ça ressemble, mais c'est un Tarascosaurus. Le même dino, version française.
Ça perd les baguettes, il fait peur. Bon, même si c'est Nasbrock, on ne peut pas le laisser se faire croquer comme ça.
Vous avez raison. Oh, eh oh, par ici.
Nasbrock nous voit et fait un virage à 90 degrés pour foncer dans notre direction. Le prédateur est toujours derrière lui.
Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
On court !
Espèce de triple corneau, lâche donc cet œuf ! On va se faire becqueter tout cru !
Hors de question ! Si je réussis à le ramener à notre époque, je serai considéré comme le plus grand paléontologue de tous les temps.
À la vitesse où on va, vous terminerez haché menu bien avant.
T'as raison, gamine. Ce monstre a besoin d'un amuse-bouche.
Nasbrock me fait alors un croche-patte et je m'étale par terre. Granny fait demi-tour pour me rattraper. Trop tard. Le Tarascosaurus est déjà sur moi. Mais au dernier moment, il bondit en avant et me saute par-dessus la tête.
Amélia ! Amélia, ça va ?
Oui, oui, c'est bon. Ce dino est plus intéressé par son œuf que par le fait de grignoter une petite fille.
Un nouveau cri de Nasbrock retentit entre les arbres.
Allons-y!
Le professeur est bloqué par un rocher. Il n'a aucun moyen de fuir. Tout doucement, le Tarascosaurus avance vers lui, la gueule grande ouverte.
S'il vous plaît, aidez-moi! Petite, j'ai pas fait exprès de te faire tomber tout à l'heure.
C'est ça, ouais. Soupe de vermine.
Lancez-nous l'œuf.
Amélia, c'est super dangereux.
Le professeur jette son trésor par-dessus le Tarascosaurus. L'œuf s'envole dans le ciel avant de retomber. Je m'élance en le suivant du regard, comme au rugby. Je cours et je plonge. Du bout des doigts, je le rattrape juste avant qu'il ne s'écrase au sol. La propriétaire de l'œuf se dresse devant moi et me dévisage menaçante. Je pose délicatement son futur petit et m'éloigne le plus lentement possible. La femelle Tarascosaurus s'approche. Elle renifle la coquille et pousse un cri qui signifie
« Le premier qui recommence, je le dévore avant qu'il n'ait eu le temps de dire « Vélociraptor ».
Alors, Granny et moi, nous nous éclipsons vers notre ascenseur à voyager dans le temps.
Ah, Nesbrock s'est encore enfui! La prochaine fois que je le croise dans un couloir temporel, il aura de mes nouvelles.
On finira bien par l'avoir. Ce qui me rassure, c'est que vu la frousse qu'il a eue ici, il n'est pas prêt de remettre les pieds à cette époque.
C'est vrai qu'il n'emmenait pas large.
Il tremblait comme un bébé.
Et dire qu'il vous laisse prétendre paléontologue...
C'est un travail où il faut être hyper patient. J'ai lu que parfois, il faut plus de 600 heures pour dégager 3 vertèbres prisonnières de la roche.
Oui, minutie... Patience et surtout...
Intelligence.
Il avait vraiment aucune chance, celui-là.
Arrivé à l'ascenseur, on se retourne une dernière fois pour contempler ce spectacle.
Eh bien, tu sais quoi? Je crois que tu as réussi à me faire aimer ces bestioles.
Toutes les bestioles méritent d'être aimées, Madame Granny.
Tu as raison. Allez, retour à la maison.
3, 2, 1...
Je sors de la boutique de Granny et jette un coup d'œil à ma montre. En me dépêchant, je pourrais être à l'heure à mon entraînement. Et puis... je suis déjà bien échauffée.
Ah, je sais pas vous, mais moi, je commence à m'y attacher à cette petite Amélia et à Madame Granny. Alors que vous ayez 7 ou 77 ans, ne bougez pas. On revient juste après une courte pause sur Europe 1 pour écouter d'autres aventures au cœur de l'histoire. Et je vous réserve une nouvelle surprise. Une histoire consacrée au destin extraordinaire de Joséphine Baker. Allez, à tout de suite.
Europe. Europe 1, les voyages d'Amélia au cœur de l'histoire. Bérénice Bourgueil.
Après l'Égypte antique, la cour de Louis XIV et le temps des dinosaures, on poursuit sur Europe 1 nos aventures dans l'histoire avec les voyages d'Amélia. Une émission spéciale aujourd'hui pour se remettre tranquillement du réveillon de la Saint-Sylvestre. Petits et grands, vous êtes tous évidemment les bienvenus pour faire maintenant un voyage pendant la Seconde Guerre mondiale. À la rencontre d'une personnalité hors du commun, une femme. Je ne vous en dis pas plus, l'ascenseur magique nous attend.
Cette partie de poule renard vipère est folle. Je suis la seule poule encore en jeu et je dois à tout prix délivrer mes coéquipières. Hop, hop, j'accélère encore. Un garçon de l'équipe des renards se dresse devant moi. Hop, je l'esquive et je réussis de justesse à effleurer la main d'une de mes camarades. Et yes, on a gagné.
C'est que ça?
Psst! Amélia! C'est moi!
Mais, Madame Granny, qu'est-ce que vous faites cacher dans les buissons de l'école?
Chut! Oh, j'ai besoin de toi! Ce crapulard de Nesbrock a encore fait un saut dans le temps pour semer le chaos! Il faut qu'on le rattrape!
J'aimerais bien vous aider, mais je dois rentrer en classe.
Ouais, bah t'inquiète pas pour ça! J'ai demandé un mot à ton papy Charlie. Il te dispense de cours, tu les rattraperas plus tard.
Vraiment? Bon bah, c'est parti!
Direction l'ascenseur temporel!
Trois, deux, un...
Décidément, ces voyages dans le temps me donnent toujours l'impression de passer dans une machine à laver. Ouf, je sors de l'ascenseur pour rejoindre Granny déjà dehors. Nous avons atterri au milieu d'une forêt de pins.
Alors, où pourrait bien se cacher ce satané Nasbrock ?
Mais vous m'avez même pas dit où nous sommes.
Eh bien, vois-tu, jeune fille, nous sommes en 1940.
Pendant la Seconde Guerre mondiale ?
Exactement. À ce moment de la guerre, la France, avec ses alliés, a perdu et elle a signé un armistice avec l'Allemagne nazie qui a le droit d'occuper une partie de la France.
Nous marchons quelques mètres avant de tomber sur une file de gens qui attendent le long d'une route de montagne.
Qu'est-ce qu'ils font ?
D'après mes amis du clan des Portiers du Temps, nous sommes dans les Pyrénées, à la frontière entre la France et l'Espagne. Regarde ! Des douaniers vérifient les papiers de chaque personne qui veut entrer.
Mais pourquoi tous ces gens vont en Espagne ?
Pour fuir la guerre en France.
Elle ne fait pas la guerre, l'Espagne ?
Pas officiellement. Leur dirigeant de l'époque, le dictateur Francisco Franco, préfère rester neutre et ne pas prendre parti. Enfin, du moins, c'est ce qu'il prétend.
Je regarde discrètement ces hommes et ces femmes aux mines soucieuses. L'une d'elles retient mon attention. Elle porte des lunettes noires et un grand chapeau. Comme si elle ne voulait pas qu'on la reconnaisse.
Mais c'est pas...
Joséphine Baker, sa perlipocket, mais si, bien sûr.
Ma mère est super fan d'elle.
Et il y a de quoi. Cette femme est née en 1906 aux États-Unis.
Et si je me souviens bien... Elle vient d'une famille tellement pauvre que lorsqu'elle était enfant, elle devait faire le ménage chez des gens plus riches pour aider ses parents. Et au bout d'un moment, elle en a eu marre et elle a voulu devenir danseuse professionnelle.
C'est ça. Elle a intégré une troupe d'artistes avec laquelle elle a fait une tournée dans tous les États-Unis.
Et puis elle a fait la rencontre d'une femme richissime qui voulait créer un spectacle à Paris.
C'est comme ça que Joséphine a fait connaître le Charleston dans les théâtres parisiens.
Le Charlet qui ?
Le Charleston. C'est une danse très dynamique et spectaculaire qu'on pratique sur de la musique jazz.
Ah, d'accord. Et maman m'a dit ensuite qu'elle était devenue une grande star.
Ah oui, c'est ça. Elle a eu un succès fulgurant, surtout avec son numéro où elle montait sur scène avec son guépard.
Un guépard ? Trop bien !
Oui, il s'appelait Chiquita. Ensuite, elle a eu des rôles importants au cinéma, chose très rare pour une femme noire à l'époque. Mais la véritable révélation, c'est lorsqu'elle s'est mise à la musique et qu'elle a chanté sa passion pour Paris. « J'ai deux amours, mon pays est Paris. »
Waouh ! Incroyable ! Quand je serai grande, je serai comme elle.
Je vois un homme lui faire un discret signe de la main. Joséphine l'aperçoit aussi et le rejoint, comme si de rien n'était.
Mon petit doigt me dit qu'il faut les suivre.
Cachés derrière un rocher, nous écoutons leur conversation.
Jacques, je suis prête, vous n'avez pas à vous en faire.
Écoutez, Joséphine, je connais votre attachement à la France, mais là, c'est une mission dangereuse.
Oh, Jacques Haptay, le grand directeur du contre-espionnage français, se préoccupe de mon sort. On a déjà travaillé ensemble, vous savez que j'en suis capable. Et puis, n'oubliez pas que maintenant j'ai la nationalité française. C'est la France qui a fait ce que je suis. C'est donc normal que je me dévoue pour mon pays. Et avec ma carrière, personne ne se doutera que j'œuvre pour vos services.
Bon, si vous le dites, je vous fais confiance. Voici le microfilm contenant une liste d'espions nazis. Vous devez le faire parvenir jusqu'à Lisbonne, au Portugal. Là-bas, sur place, un agent vous attendra. Mais n'oubliez pas, si vous êtes arrêté et que les Allemands découvrent cette liste...
Ne vous en faites pas. Qui s'en prendrait à la grande Joséphine Baker ?
L'homme s'éclipse et Joséphine retourne se placer dans la file qui mène au poste frontière.
C'est vrai que Joséphine a travaillé pour la France libre, comme de nombreuses femmes d'ailleurs. On en entend peu parler, mais Marie-Madeleine Fourcade ou Bertie Albrecht, par exemple, ont eu des rôles clés dans la résistance française.
La résistance, c'est les gens qui ont continué de se battre contre les nazis alors qu'ils avaient envahi la France ?
Oui, c'est ça. Et pour les aider, Joséphine est prête à risquer sa vie.
Mais il y a quelqu'un qui vient se mettre à côté de Joséphine.
Oh ! C'est cette fripouille de Nasbrock ! Il va voir ce qu'il va voir.
Amélia, ne bouge pas.
Si on attire l'attention sur Nasbrock et Joséphine, les policiers vont les repérer. Et si le microfilm n'arrive pas à bon port, c'est l'issue même de la guerre qui pourrait être bouleversée. On n'a plus qu'une chose à faire. Passez nous aussi la frontière pour veiller sur Joséphine.
Mais ils ne vont jamais nous laisser entrer.
Granny me lance l'un de ses sourires plein de bêtises.
Pour qui tu me prends, jeune fille? Je ne voyage jamais sans mes faux papiers. Et voilà les tiens.
Cette vieille dame a tellement de cordes à son arc qu'elle pourrait jouer de la harpe. On se range à notre tour dans la file d'attente. Heureusement que le sonotone de Granny a le pouvoir de transformer mes habits en vêtements de l'époque. Sinon, on se serait vite fait repérer. C'est le tour de Joséphine. Avec un grand sourire, elle présente ses documents au douanier. L'agent lève les yeux vers elle. Il s'arrête une seconde, puis il lui rend son passeport et lui fait signe d'avancer. Ouf ! Nasbrock passe juste après elle. Alors que l'officier lui fait signe que c'est bon, l'horrible professeur lui murmure quelque chose à l'oreille. Aussi sec, le policier fronce les sourcils et rappelle la chanteuse.
Oui, vous, madame, revenez ici, je vous prie.
Oh non ! Granny, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors là, je n'en ai aucune idée.
Europe 1, les voyages d'Amélia au cœur de l'histoire. Bérénice Bourgueil.
Sur Europe 1, on continue nos voyages dans le temps à la rencontre donc de Joséphine Baker. C'est le moment de remonter dans notre ascenseur magique avec nos personnages. Amélia, Granny et un grand méchant qui a décidé de mettre le bazar dans le passé. Vous avez peut-être reconnu sa voix. C'est notre journaliste Marc Messier qui s'est installé en studio aux côtés d'Elena Noguera, de Philippe Vandel et d'Olivier Pouls, entre autres. Nous sommes en 1940. Les nazis ont envahi la France et Joséphine Baker, la chanteuse devenue résistante, essaie de passer la frontière vers l'Espagne.
C'est donc ça le plan du professeur Nasbrock ? Faire en sorte que Joséphine Baker échoue dans sa mission pour la résistance ? Mais elle garde son sang-froid et se présente au douanier avec un sourire.
Oui, monsieur l'agent, que puis-je pour vous ?
L'homme devant vous m'a révélé une information très intéressante à votre sujet.
Je vous écoute.
Vous êtes la grande Joséphine Baker ? Vous pourriez me signer un autographe ?
Mais bien sûr, mais comment pourrais-je refuser un si beau garçon ?
Oh, merci beaucoup.
Tout rouge, le douanier contemple le bout de papier, tandis que Joséphine s'éloigne. Nasbrock en profite pour l'aborder et je les vois disparaître tous les deux.
Quel vieux poireau moisi ! Il faut qu'on l'attrape !
Justement, c'est à nous !
Nous tendons nos faux passeports. Le douanier observe nos papiers, puis nos dévisages. Il regarde à nouveau nos passeports en se grattant le menton et il finit par nous dire
« Allez, c'est bon, vous pouvez y aller. »
On se dépêche de passer. Mais lorsque nous apercevons enfin Joséphine, la jeune femme semble affolée. Elle fouille dans ses poches, sa valise, et regarde même dans ses chaussures. Derrière elle, Nasbrock s'éloigne en sifflotant.
Saperlucklochette ! Ce brigand lui a volé le microfilm !
On prévient Joséphine ?
Surtout pas ! Qui sait ce que Nasbrock lui ferait si elle voulait le récupérer ? On s'en charge ! Viens, on le prend en filature !
Granny et moi, nous nous rapprochons de lui. Plus que quelques pas, et nous pourrons l'attraper. Mais soudain, un automobiliste klaxonne. Surpris, Nasbrock se retourne et nous remarque par la même occasion.
Encore vous ? Mais vous êtes de vrais sangsues !
Aussi vif qu'un serpent, il saute dans une voiture restée ouverte et démarre en trombe.
Oh, tu l'emporteras pas au paradis, Nasbrock !
Granny me prend par la main. On fonce en direction d'un garçon qui décharge une vieille camionnette.
Urgence médicale ! Cette petite est atteinte de questionnite aiguë. C'est une maladie très contagieuse et je dois l'emmener d'urgence à l'hôpital. Je réquisitionne votre véhicule.
Le garçon me regarde d'un air apeuré et fait un pas en arrière. Granny en profite pour me faire grimper dans la camionnette et s'installe au volant.
Granny, vous êtes sûre qu'il faut conduire aussi vite ?
Tu comprends pas, Amélia. C'est une course pour l'histoire qui se joue. Si Joséphine ne récupère pas ce microfilm, sa mission pour la résistance française prendra fin ici.
Parce qu'elle a fait beaucoup de choses pendant la guerre.
T'imagines même pas. Après cette mission pour Lisbonne, elle va faire une grande tournée musicale entre le Maroc et le Moyen-Orient. Mais bien sûr, ce sera un prétexte pour obtenir le plus d'informations possible sur les nazis et leurs plans.
Pour les transmettre à la résistance ?
Exactement, pour sauver la France de l'Allemagne nazie.
Et comment elle a fait pour récupérer ces informations?
Elle use de sa réputation, elle chante dans les ambassades, elle rencontre des personnes importantes, elle dînera même avec le dictateur italien Benito Mussolini, un très bon ami d'Hitler.
Il faut vraiment être courageuse pour faire ça.
Et elle s'arrête pas là. Lorsque la guerre se termine en France, elle retourne aux États-Unis pour défendre les droits des Noirs américains. D'ailleurs, en 1963, Madame Baker participera à la grande marche organisée par Martin Luther King et prendra la parole devant 250 000 personnes vêtues de sa tenue de résistante française.
Waouh ! Moi, j'ai déjà peur de parler devant les 30 élèves de ma classe, alors 250 000...
Mais non, j'ai passé mon permis il y a à peine 60 ans. Et tu savais que Joséphine avait créé sa propre tribu aussi? Elle appelait ça sa tribu arc-en-ciel.
Oh, ah oui, je me souviens. Elle a adopté plein d'enfants venant du monde entier.
Une dizaine, oui. À cause des problèmes de santé, elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Mais elle ne s'est pas laissée décourager.
Granny, attention!
Devant nous, la voiture de Nasbrock dérape dans un virage, se met à zigzaguer et finit par se retourner comme une crêpe.
Ouch! Dans le talus! Granny s'arrête et descend précipitamment.
Nasbrock? Nasbrock, espèce d'andouille! Est-ce que tu m'entends?
Oh là là! Je me sens partir.
Madame Granny réussit à ouvrir la portière et sort l'horrible professeur. Avec sa bosse sur la tête et ses bleus sur les bras, il me fait presque de la peine.
Nasbrock, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça?
Je voulais apporter moi-même le microfilm aux résistants pour être considéré comme un grand héros de guerre.
Sombre idiot! Tu aurais pu compromettre le cours de l'histoire! Bon, Amélia, surveille-le. Je vais voir s'il y a de quoi le soigner dans la camionnette.
Pas de problème. Il ne devrait pas aller bien loin.
Mais à peine Granny parti, Nasbrock se relève d'un bond et sort un pistolet de sa poche.
Plus un geste. Granny, tu t'éloignes du véhicule. J'ai une mission à terminer.
Espèce de sale petit crapaud venimeux! Tu te rends compte de ce que tu t'apprêtes à faire?
Marquer l'histoire, voilà ce que je vais faire.
Je fais un pas vers lui. Mais je marche sur mon lacet. Je perds l'équilibre et je m'étale sur le professeur.
Dégage de là, vermine!
C'est bon, c'est bon! Je te laisse la camionnette. Ne touche pas à la petite!
Bye bye, bande de mauviettes!
C'est un désastre. On a perdu le microfilm.
Vous croyez vraiment que j'ai trébuché sur lui sans faire exprès?
Hein? Tu veux dire que...
Je sors le microfilm de ma poche.
Que j'ai des doigts de fée!
Oh!
Granny explose de rire et pour la première fois, elle me serre dans ses bras.
Allez, en route!
Quand nous arrivons au poste frontière, Joséphine est toujours là. Assise sur sa valise, les mains sous le menton, elle semble dévastée. Je m'approche d'elle pour lui parler.
Bonjour, Madame Baker. Désolée de vous déranger, mais je suis une grande admiratrice.
Ah, oh, ça me touche, petite. Merci beaucoup.
Pendant que je lui parle, Granny dépose délicatement le microfilm dans son sac à main. Je m'éloigne de quelques pas et jette un coup d'œil par-dessus mon épaule. Joséphine est toute souriante. Elle vient de trouver le microfilm dans ses affaires.
J'aimerais bien voir la tête de Nasbrock quand il va se rendre compte que le microfilm a disparu.
Oh ah, moi aussi, dis donc.
Nous éclatons de rire et retournons à notre ascenseur temporel.
3, 2, 1...
Bon, allez, direction l'école maintenant. Il me semble que tu as un cours à rattraper.
J'espère que ce sera sur l'importance des femmes dans la résistance. Ah, et Granny, j'ai une question.
Ça m'aurait étonnée.
Pourquoi Nasbrock, il vous a pas fait mal avec son pistolet?
Oh, ce Nasbrock est un vicieux. Mais il n'oserait jamais faire ça.
à sa grande sœur.
Ça alors, quelle famille!
Et une sacrée surprise pour finir cette histoire incroyable. Je suis sûre que vous êtes comme moi, vous voulez avoir la suite. Eh bien, ne bougez pas, on va plonger ensemble dans les profondeurs de la grotte de Lascaux. Allez, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, les voyages d'Amélia au cœur de l'histoire. Bérénice Bourgueil.
Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1. Un petit cadeau pour commencer l'année. On écoute aujourd'hui des histoires en famille, des histoires écrites pour les enfants avec deux personnages, Amélia et Granny, qui n'ont pas peur de voyager dans l'histoire. Très, très loin dans l'histoire même. Ah, je ne vous en dis pas plus. Allez, c'est parti.
Il a dit que c'était urgent. Pour que Papy Charlie se réveille de la sieste comme ça, d'un coup, ça, oui, ça doit être sacrément urgent.
Hé, faites attention! Vous n'êtes pas tout seul, regardez devant vous!
Quand on y réfléchit, qu'est-ce qui peut être urgent au point de réveiller Papy de la sieste? C'est jamais arrivé avant. Jamais!
Madame Granny, vous êtes là? Ouh, c'est moi, Amélia!
Faudra faire quelque chose pour l'éclairage quand même. Quelqu'un va finir par se casser la figure sur tous ces bidules qui traînent par terre dans l'obscurité.
Mais non, vieille sotte! Le fil rouge sur le fil bleu et le fil vert sur le fil jaune, voyons. Fais pas la même bêtise que la dernière fois. Et puis la soudure...
J'étais sûre que je vous trouverais là. Ah, vous bricolez votre sonotone? Vous m'entendez pas du tout, alors?
Sans perlu, oreillette, tu m'as fichu la trouille. Je t'avais pas entendu, je bricolais mon sonotone. Attends, je le remets. C'est mieux comme ça, non?
Vous savez que vous parlez toute seule quand vous bricolez?
Mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes?
Papy Charlie m'a donné une lettre pour vous. Une lettre très urgente qu'il a dit. Même qu'il s'est réveillé de la sieste. Et ça, c'est vraiment la chose la plus incroyable à laquelle j'ai assisté cette année. Comment ça? Bon, qu'est-ce qu'il vous a écrit?
Ne fais pas ta curieuse, rien qui te concerne.
D'accord, d'accord, si c'est comme ça...
Attends, ne t'en va pas, j'ai besoin de toi. J'ai reçu une alerte urgente. Nasbrock va tenter quelque chose à Montignac.
Une alerte urgente? Ouais.
Parfois, les adultes nous prennent vraiment pour des imbéciles. Une lettre urgente de Papy Charlie. Une alerte urgente concernant Nasbrock. Papy Charlie, petit cachotier. Tu es un portier du temps, toi aussi.
C'est là qu'est la grotte de Lascaux. Amélia! Amélia, tu m'écoutes?
Ah, pardon! Qu'est-ce que vous disiez, Madame Granny?
Je disais, suce à Nasbrock, sautons dans l'ascenseur temporel et en route pour la grotte de Lascaux!
Trois, deux, un...
Tu pars, j'ai la tête qui tournait. Oh, oh là, j'ai un peu mal au cœur là.
On ne s'y habitue jamais, crois-moi.
On va tomber nez à nez avec un mammouth, c'est ça le plan?
Visiblement, tu n'es pas au courant. Pas de mammouth dans la grotte de Lascaux.
Alors là, on peut dire que vous chipotez, Madame Granien. Pas de mammouth sur les parois de la grotte de Lascaux, d'accord. Mais des mammouths dans les forêts de Lascaux, il y en a. Les mammouths ont disparu bien plus tard, à cause du réchauffement climatique, de la chasse et des maladies. Enfin, je crois.
Bah dis donc, t'en connais un rayon.
La préhistoire, c'est un peu comme les dinosaures. J'ai commencé en maternelle, puis je l'ai étudié au CP, puis j'ai recommencé en CE1 et en CE2, avant de tout bien résumer en CM1. Ouf.
T'inquiète pas, tu vas en entendre parler aussi en 6e.
Vivement le collège, alors.
Mais c'est quand même pas aujourd'hui que tu verras un mammouth, car nous ne sommes pas en moins 18 000, ma chère. Nous sommes le 8 septembre 1940.
Quoi? Pendant la Deuxième Guerre mondiale encore?
Exactement. En 1940, les Allemands ont envahi une partie de la France, mais Montignac est dans ce qu'on appelle la zone libre.
Donc, le 8 septembre 1940, pas de mammouth, pas d'Allemands. On est là pour quoi alors ?
C'est le jour de l'invention de la grotte de Lascaux. Est-ce que tu entends ? Je crois que c'est un chien et pas un mammouth !
Comment ça, l'invention ?
Le jour où on l'a découverte.
Pourquoi on ne dit pas la découverte de la grotte de Lascaux, alors ?
À cause du verbe latin « invenio », qui signifie « venir dedans ». On invente une grotte, on ne la découvre pas, c'est comme ça. Bon, allez en route, c'est par là, suffit de suivre les aboiements du chien !
Allez, on sort de là, allez, allez, voilà.
Ça va ?
Ça va.
Mais non ! J'entends bien que vous avez du mal à avancer.
Vas-y sans moi. J'ai besoin de souffler. Je vais m'asseoir un peu dans les fourrés. Juste là.
Ok, mais quand je vais tomber sur Nasbrock...
Tu lui dis qu'il arrête ses bêtises et que sa grande sœur arrive pour lui botter les fesses.
Voilà, ça c'est un bon chien.
Bonjour monsieur l'inventeur.
Hein ? Ah, vous m'avez fait peur à vous faufiler comme ça là derrière moi. Et d'abord, je suis pas inventeur.
Ça, c'est ce que vous croyez.
Mais non, moi je suis juste mécano. Je m'appelle Marcel. Marcel Ravida.
Mécano ? Waouh ! Les voitures, les motos, les avions ?
Ah non, 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 pas les avions, non. Juste les voitures. Là-haut, au garage de Montignac. Je suis encore apprenti, hein. Je termine cette année. Je viens d'avoir 18 ans.
C'est quoi le problème avec votre chien ? Il est hyper mignon.
Bah, il a effilé dans le trou, sous le pin déraciné, en coursant un lapin, et puis voilà. Mais maintenant, c'est bon, il est sorti.
Waouh ! C'est un sacré trou. Ça a l'air profond. Vous auriez pas des petits cailloux ?
Ah oui, c'est profond. Je suis sûr que c'est un passage secret qui mène au vieux château de Lascaux.
Peut-être bien, monsieur l'inventeur. Mais moi, je parierais plutôt pour une grotte.
Une grotte ?
En tout cas, faut qu'on descende voir.
Ah, t'as pas froid aux yeux, toi, gamine ? Va falloir une pelle pour élargir le trou. Et des cordes, et des lampes.
Ouais.
Après, je peux revenir avec des copains pour nous aider jeudi prochain.
Jeudi ? Et pourquoi pas à la Saint-Glinglin ?
Vous aviez qu'à m'accompagner au lieu de rester assise dans les buissons. Il a dit qu'il pouvait pas avant.
Et l'odieux Nasbrock, tu l'as vu ?
Pas à l'ombre de son ombre, ni dans le trou, ni ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va attendre 4 jours.
Attendre ? Pourquoi faire ? L'ascenseur temporel, c'est beaucoup plus rapide.
Hein ? On peut faire ça ?
Bien sûr qu'on peut !
Trois, deux, un...
Oh là là ! Ça secoue encore plus ! Tout ça pour 4 jours ! Je crois vraiment que je vais vomir ce coup-ci !
Simon ! Creuse encore un peu, on pourra jamais passer par là. Georges, attache le bout de la corde à la souche, là-bas. Jacques, les lampes, ça va ? Ok. On attend encore un peu la petite, et puis on descend.
Je suis là !
Oh, c'est la deuxième fois que tu me surprends, toi.
Et je te signale que je suis pas si petite pour mon âge, grand dadais.
Bon, on est paré ?
Et c'est quoi ces trucs-là ?
Bah, des lampes. Des lampes à huile. Prends-en une et attache-toi à la corde. Je vais passer devant. C'est parti pour la descente. Ça va, Amélia ?
Ça va, ça va. Je suis juste au-dessus de toi. Et toi, tu touches le fond ?
Pas encore. On descend toujours. Là, on est quoi ? 6 mètres. 8 mètres ? 8 mètres au moins. Voilà, là, ça y est. Ça y est, je vois le sol de la grotte. Les parois ?
Waouh !
Approche ta lampe de la mienne.
Trop beau !
Dans la lumière tremblante des flammes de nos lampes, je découvre une immense salle. Comme l'intérieur d'une église. Le fond se perd dans l'obscurité et sur la voûte, 2 files de majestueux aurochs se font face.
Oh waouh !
T'as vu les peintures des taureaux ? Waouh ! Je vais appeler cet endroit la salle des taureaux.
Ce sont des aurochs, des grosses vaches sauvages. Mais c'est toi l'inventeur après tout.
Hé ! On dirait qu'il bouge !
Mais non, voyons, regarde, c'est la lumière.
C'est pas du tout la lumière ! Les dessins des aurochs bougent.
Ouh là 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 là. Je sens les couloirs du temps qui tremblotent, qui frissonnent. Je sais vraiment pas comment le dire, mais en tout cas, ça me retourne l'estomac et... Mais les dessins bougent et changent de place, ils s'alignent pour former des lettres. N, A, Z, B, R, aussi
Nasbrock.
Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ça, Nasbrock?
C'est rien, t'inquiète pas. Il faut que je te laisse, je dois remonter. J'ai une urgence.
Encore du suspense, décidément. Restez sur Europe 1, la suite de nos aventures dans l'histoire, c'est dans un instant avec Amélia et Granny, les deux personnages qui nous accompagnent aujourd'hui, sur un texte de Thomas Chesson et Blum.
Europe 1, les voyages d'Amélia au cœur de l'histoire. Bérénice Bourgueil.
L'aventure se poursuit avec nos personnages Amélia et Granny. On retourne tout de suite aux abords de la grotte de Lascaux. L'histoire est en danger. Le cours du temps a été perturbé. Il y a urgence.
Granny ! Granny ! Nasbrock a écrit son nom en déplaçant les aurochs. Je les ai vus bouger sur les parois de la grotte de Lascaux.
Oui, j'ai senti les frémissements des couloirs du temps jusqu'ici. Il l'a fait. Cette triple buse a modifié le passé. Saperlimoviette, c'est une catastrophe intersidérale. C'est la fin du temps. C'est la fin de toute chose.
Du calme, Madame Granny. Expliquez-moi comment il a fait.
Comment il a fait? Cet affreux personnage. Comment il a fait? Ce résidu de porridge.
Oui, comment il a fait?
J'imagine qu'il a voyagé jusqu'au paléolithique supérieur au moment où les peintures ont été réalisées et il a réussi à les modifier. Tu te rends compte? Les historiens vont penser qu'on savait écrire à cette époque.
Flûte alors. Et moi qui ai appris à l'école que la préhistoire, justement, c'était avant l'invention de l'écriture.
Tu crois vraiment que c'est le moment de faire des blagues? C'est ma faute. J'ai cru qu'on allait trouver Nasbrock en 1940 au moment de l'invention de la grotte. Mais je me suis trompée d'époque.
Arrêtez de vous faire du mouron comme ça. On va trouver une solution.
Mais c'est impossible. C'est trop tard, c'est fait.
Je vais peut-être dire un truc bête. Mais pourquoi on retourne pas 20 000 ans en arrière, juste au moment où ce foutu troglodyte de Nasbrock s'apprête à écrire son nom sur les parois de la grotte? Et là, vous lui bottez les fesses.
Mais bien sûr, ton plan est génial! Et en plus, comme j'ai modifié mon sonotone, je vais pouvoir détecter très précisément à quel moment ont eu lieu les remous dans les couloirs du temps. Très exactement, 19 751 ans, 4 mois, 17 jours, 5 heures et 10 minutes! À nous deux, Nasbrock!
Décidément, ça fait beaucoup de voyages dans le temps pour une seule journée. Sans compter le frémissement des couloirs du temps, comme dit Granny. Accrochez-vous et serrez les dents. Pouh, ça va secouer.
Froid de canard.
Ah oui, on est tombé en plein hiver et les hivers de l'âge de pierre sont plutôt rigoureux. Le climat a bien changé depuis 20 000 ans. Ouh, c'est pas le moment de lambiner. En route!
On marche dans la neige. Ouh, ça perlifrisquette, comme dirait Granny. On est habillé à la mode de la préhistoire, avec de très jolies peaux de bêtes. Mais c'est juste un truc faux fabriqué par le sonotone. Ça tient pas chaud du tout. J'aperçois l'entrée de la grotte. Il y a de la lumière à l'intérieur. Du feu sans doute. De la chaleur. Enfin.
Waouh, c'est encore plus beau.
Chut, ne nous faisons pas remarquer. Tu sais, c'est un sanctuaire ici. Ce sont des peintures liées à leurs croyances. Les animaux sont accompagnés de symboles. Des points, des formes géométriques, des barbelés, des damiers colorés. Ce sont des signes magiques et religieux.
La voûte est éclairée par les feux. Tout est beaucoup plus beau qu'en 1940. Juste au-dessus de moi, deux magnifiques aurochs accompagnés d'une dizaine de chevaux et d'une... Comment dire...
Une licorne !
Chut ! Quand même !
Un grand cheval avec un truc tout droit qui lui sort du front, ça ressemble à une licorne.
Oui, c'est d'ailleurs comme ça que les paléontologues surnommeront cet animal énigmatique.
Mais si tu veux mon avis, ce n'en est pas vraiment une. Parce que les cornes...
Ça n'existe pas. Ça, je le sais, j'ai 10 ans quand même. Vous savez, c'est incroyable. Les couleurs sont beaucoup plus vives que ce que j'avais vu en descendant la première fois.
Normal, tout a vieilli en 20 000 ans. Moi aussi, hein. Les parois se sont abîmées et salies. Les couleurs ont perdu leur éclat. Regarde là-bas comment ils les préparent.
Là, il écrase du charbon de bois dans un mortier pour faire du noir. Et la femme à côté, elle réduit en poudre une pierre rouge.
De l'hématite. C'est une pierre qui contient du fer. Du fer qui devient rouge en rouillant au contact de l'air. Où tu vas?
Vous inquiétez pas, Madame Granny. Je voudrais juste aller jeter un œil. Il y a un deuxième atelier tout au fond où ils mélangent les poudres avec...
Du pipi, de la graisse d'animal, de la moelle d'os, de la salive et même du sang pour faire de la peinture.
Si vous croyez que ça m'empêche d'y aller, c'est que vous me connaissez bien mal. Moi, rien ne me dégoûte.
Et en plus, je vois une des femmes qui mélange de l'argile avec... juste de l'eau. Rien de dégoûtant. Elle obtient un beau jaune. Plus loin, d'autres font chauffer les liquides sur le feu pour en changer la couleur. Les artistes trempent leurs mains dans ces soupes de sorcières et peignent avec les doigts, ou là-bas, avec de la mousse ou des feuilles. Bouquetin, cerf, bison, rhinocéros, félin. Et ici, il peint avec... qu'est-ce que c'est ? Du crin de cheval. C'est un renne avec de très grands bois. Il y en a un qui utilise le pigment durci en forme de bâton et s'en sert comme d'un crayon pour dessiner des barbelés, puis des points.
Yerk !
Je viens d'être aspergée de rouge. La femme sur un rocher juste au-dessus de moi vient de souffler de la peinture avec sa bouche sur la paroi de la grotte.
Nasbrock ! Je t'ai vu ! Frère indigne et sans cervelle, je ne te laisserai pas abîmer les couloirs du temps et l'univers tout entier ! Non, tiens, tiens, quatre
roues,
crapaud venimeux, serpent de mer, destructeur de l'univers, crache de mammouth, paix de rhinocéros,
allez-y, Madame Granny.
La voir un bleu.
Bien fait.
Lâche mes cheveux.
Stop. Désolé de vous interrompre, mais je crois qu'on a un peu trop dérangé le sanctuaire et qu'il est temps de partir.
À la revoyure, grande sœur. J'ai de grands projets pour l'avenir et pour le passé.
Tu perds rien pour attendre, Nasbrock.
Faut vraiment remonter là-dedans. Mais, Madame Granny, vous pleurez. Mais il vous a fait mal?
Non, ne t'inquiète pas. C'est juste que d'avoir un frère comme Nasbrock, c'est pas toujours facile.
Voilà, l'histoire est finie, pour aujourd'hui en tout cas. J'espère que vous avez apprécié tout comme moi ces petits voyages au cœur de l'histoire produits par Fanny Rascle et Europe 1 Studio. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé cette surprise pour le 1er janvier. Si ça vous a donné envie d'écouter d'autres voyages dans le temps, eh bien c'est très facile. Rendez-vous sur europe1.fr ou sur la plateforme de notre partenaire Deezer. Il suffit de chercher le podcast « Les voyages d'Amélia au cœur de l'histoire » et c'est gratuit. Et nous, on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine avec tous mes chroniqueurs de retour, reposés, en pleine forme, dans cette arrivée près de chez vous. Je vous souhaite une très belle année 2022.